Pierre Damien Huyghe, donc un collègue de Paris 1. Damien Huyghe est professeur à l'université de Paris 1 Sorbonne. Il a publié récemment Du Travail, donc un essai aux éditions Amusilite en 2017, mais aussi Contre-temps, de la recherche et de ses enjeux, art, architecture, design en 2017 également. Et puis il a travaillé sur les notions de service, de serviabilité, d'utilité, de lien social, qui sont interrogés dans plusieurs autres de ses textes, et notamment « À quoi tient le design ?» aux éditions de l'Incidence en 2015. Et puis, on peut aussi consulter donc d'autres travaux sur son site, Pierre Damien Huyghe. Donc je lui laisse la parole. Donc le titre, c'est « Le revers du beau ». Donc on attend que tout le monde soit prêt. Vous pouvez vous rapprocher éventuellement, hein, restez pas forcément au fond.
Bien, comme vient de l'indiquer Jacinto, mon propos, je l'ai intitulé « Le revers du beau ». Je pense que je vais toucher au sujet du colloque, notamment un moment particulier sur lequel peut-être j'insisterai. Mais autrement, je pense que je me suis dit que j'allais toucher au sujet du colloque par un biais. En fait, le texte de Marcel Mauss, depuis que je le connais, et il y a assez longtemps, m'a toujours laissé perplexe, peut-être parce que je ne l'ai pas compris, mais en tout cas parce que, pour ma part, il m'aura laissé à penser que s'il y a contre-don, il n'y a pas de don généreux. Je crois que Agnès a utilisé tout à l'heure l'expression de pur don. Il n'y a pas de don généreux, ou il n'y aurait pas de don généreux, mais toujours une utilité sociale ou morale, au sens où le mot moral a la même étymologie que mœurs, une utilité pour les mœurs de ce qui semble généreux. Mais la question que je vois dans cette affaire, c'est celle de la signification même du mot utile, qui me semble venir tôt ou tard dans les réflexions ou les conversations sur toutes ces questions. Utile est un mot bien pratique, mais c'est un mot beaucoup plus qu'un concept. En fait, je crois que c'est un mot qui aura été abandonné de la pensée ou par la pensée. Alors, j'ai entrepris de revenir sur ce mot il y a déjà quelques années, et d'abord d'essayer de le repérer, tout simplement de le repérer. Mon travail sur ce point a suivi ou aura suivi un double chemin. Du premier chemin, j'ai trouvé l'ouverture, il y a déjà pas mal de temps, dans le discours sur les sciences et les arts de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau médite là, en fait, sur la puissance technique de l'humanité, sur le déploiement de la capacité humaine à mettre au monde des objets. La notion explicitement décisive dans ce texte, en fait difficile à lire, c'est la vertu. Et plus implicitement dans le texte, la santé. Il s'agit de savoir, en fait, s'il est des modes de production, des arts, du fer, qui sont plus sains que d'autres, c'est-à-dire qui sont davantage ou qui seraient davantage capables que d'autres d'entretenir la vigueur. Car pour Rousseau, la vertu, c'est d'abord une vigueur. De là, toute une contestation du luxe et de la luxuriance, mais aussi, je vais y revenir, c'est un point très difficile sur le plan conceptuel, de la commodité. Alors c'est ce dernier point qui m'a tout particulièrement intéressé dans le texte de Jean-Jacques Rousseau, qui cherche d'une certaine manière à nous faire penser la notion d'utilité en la privant de sa relation avec la notion de commodité, ce qui est tout sauf facile. Ce point-là, dans la réflexion de Rousseau, dans le texte de Rousseau, oblige à concevoir une très stricte définition de l'utilité. La vertu de l'utile, pour Rousseau, le vraiment utile, l'utile en vérité, ce n'est pas pour lui donc dans le commode qu'elle se trouve. Confondre l'une et l'autre notion, l'utile et le commode, ce serait, d'après Rousseau, je me contente de rendre comme je peux le texte, Je ne dis pas que je le comprends pour le moment. Confondre l'une et l'autre notion, l'utile et le commode, ça serait, dit-il, en substance, pour l'humanité, se forcer, s'excéder, en faire trop, aller au-delà de l'utile ou du strictement utile. Dans les commentaires qu'il m'est déjà arrivé de faire de ce texte, j'ai pu dire une humanité qui confondrait l'utile et le commode finirait par échapper à sa condition, laquelle requiert en fait qu'il soit fait droit à ce que le discours sur l'origine de l'inégalité, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes appellera la perfectibilité, qui est une propriété essentielle de l'humanité pour Rousseau. Cette perfectibilité, il faut l'entendre, et c'est en quoi Rousseau n'est pas de plein pied, je vais y revenir, dans le siècle des Lumières, cette perfectibilité, il faut l'entendre comme signifiant non pas, comme cela sera bientôt le cas chez Condorcet, la valeur d'un progrès incessant de l'humanité, mais il faut l'entendre comme étant, comme signifiant la valeur d'un défaut permanent. Si l'utilité relève bien pour Rousseau d'une vertu, ça n'est pas en tant qu'elle pourrait jamais tout à fait combler celui qui la met en œuvre. Par trois fois dans son premier discours, le discours sur les sciences et les arts, Rousseau demande que nous ne confondions pas l'idée que nous nous faisons de l'utilité avec l'idée que nous nous faisons de l'agrément. L'utile n'est pas ce qui nous agréerait au-delà de nos besoins, dit-il en substance. Alors cette proposition, bien sûr, est paradoxale. Elle l'aura été dès son époque, dès l'époque des Lumières et de l'Encyclopédie, qui travailla pas mal, quoique assez subrepticement, je vais y revenir, à une autre contextualisation lexicale de l'utile. Mais cette proposition est également paradoxale et autrement, si j'ose dire, postérieurement, pour ceux dont nous sommes, que la simple chronologie a placé dans la descendance de Kant. C'est-à-dire, je pense que l'éminence de la philosophie kantienne aura occulté pour nous un certain nombre de problèmes dont Jean-Jacques Rousseau s'était fait le porteur. Car si Kant ne fait pas non plus de l'agrément et de l'intérêt qu'on peut trouver à l'agréable le critère ultime de la faculté de juger et du jugement de goût, c'est moins pour lui opposer l'utilité que la beauté. L'histoire de l'esthétique, c'est en fait, a davantage retenu la proposition kantienne que celle de Rousseau, lequel ne compte pas, comme vous savez, au nombre des références majeures de cette discipline, l'esthétique. Eût-elle adopté l'esthétique à ce titre, la thèse rousseauiste, qu'elle eût dû s'expliquer avec les positions contre lesquelles Rousseau entreprit de batailler au sein du siècle des Lumières. Cette explication-là n'a pas eu lieu. Son absence nous concerne toujours. Je pose, c'est l'hypothèse en tout cas d'une grande partie de mon travail, que la critique de la faculté de juger est héritière d'un engagement de la pensée dans une voie qui aura été frayée, sans qu'aucun sujet n'y participe en haute conscience, pour reprendre une expression de Walter Benjamin. Cet engagement, ce frayage de la pensée, aura consisté en ceci, un sourd déplacement de la valeur d'utilité et corrélativement, en compensation pour ainsi dire, un placement comme jamais de la beauté dans un champ d'au moins relative autonomie. Alors que le beau ait été placé comme jamais au siècle des Lumières, c'est ce dont le discours préliminaire que joint d'Alembert à l'Encyclopédie témoigne. L'éminence des beaux-arts s'y manifeste dans ce texte-là à l'évidence. De même, l'indépendance du génie artiste. C'est tout à fait lisible dans le propos de d'Alembert. Ce qu'il l'est moins, et ce pourquoi il faut lire ce texte plus analytiquement, c'est, je dirais, la découpe opérée par ailleurs
à force rubrique dans le texte de l'encyclopédie et aussi à force de signataire, parce que c'est un collectif, en fait, qui dans ce texte se pose en auteur. Ce qui l'est moins, donc, c'est la découpe opérée dans le champ lexical, alors admis pour le mot « art ». L'acceptation de ce mot « art », il suffit de lire les textes, il faut juste être patient, c'est un peu long, mais pas difficile. L'acceptation du mot « art » n'est pas stable dans toute l'encyclopédie. Elle est diversement contextualisée et ainsi diversifiée, elle est si bien travaillée qu'on peut y entendre à l'occasion ce qu'on n'y entendait pas manifestement jusqu'alors, en tout cas pas à ce point de manifestation, à savoir l'ambition, oui, l'ambition ou le désir d'une certaine réserve. Ce à quoi les encyclopédistes sont parvenus, c'est à réserver pour le mot « art » un champ d'acception extraordinaire et à faire gloire de cette réserve. Depuis eux, depuis l'encyclopédie, nous pouvons entendre ce mot « art » comme retranché d'une proximité sémantique qu'il avait encore à l'époque, au XVIIIe siècle, et qu'il aura encore pour quelque temps, proximité sémantique avec le mot « industrie ». Alors je ne pourrais pas donner ici, faute de temps bien sûr, toutes les preuves nécessaires. Il faudrait que j'accumule les textes et que je vous montre, texte après texte, comment le mot « art » se déploie diversement dans les divers textes de ces auteurs collectifs que sont les auteurs de l'encyclopédie, et comment dans certains textes ils voisinent encore avec le mot « industrie » et comment dans d'autres ils s'en séparent. Évidemment, c'est un lien, je vais y venir avec ce que je cherche à faire, c'est-à-dire clarifier l'entente du mot utile ou tenter d'en faire un concept. Tout de même, il faut que, même si je n'ai pas le temps de vous lire tous les textes, il faut que je m'explique un petit peu. Alors, juste à titre d'exemple rapide, si vous voulez, à la toute fin du XVIIe siècle, un auteur comme Roger de Pile pouvait parler encore plusieurs fois de l'industrie du peintre ou de l'industrie de la peinture. Bien sûr, cette industrie-là, à la fin du XVIIe, n'est pas à entendre comme l'industrie de la société industrielle. Il faudra justement le travail de l'encyclopédie pour que se forme, dans et par un mouvement de langage, dans et par une écriture qui ne conceptualise pas nécessairement ce qu'elle inscrit dans la langue, il faudra tout ce travail-là pour que s'inscrive donc dans la langue une mentalité capable d'admettre un autre mouvement, plus matériel, à la fois technique et économique, celui-là même d'où va émerger justement le monde industriel. L'écriture des encyclopédistes se produit, me semble-t-il, comme condition culturelle du monde industriel. Elle libère, elle aura libéré de seulement dire et penser comme on disait et pensait jusqu'alors. Rien de parfaitement théorisé en cela. Certes, on accède à ce travail d'écriture par des noms qui, isolés d'abord comme ils le sont à titre d'entrée dans un dictionnaire, ont bien l'allure de noms de concepts, mais l'allure seulement. Que leur ordonnancement à ces noms soit le plus immédiatement alphabétique, de façon la plus immédiatement évidente alphabétique, cela dit assez qu'il s'agit en fait pour les encyclopédistes surtout de répertorier le disciple, plus finalement que de le théoriser. Dans ce travail, les encyclopédistes ne se contentent pas de seulement dresser un état du langage. Non, ce sont des écrivains qui marquent la langue. Ils y font admettre des significations nouvelles, ils y rendent lisibles, souvent seulement au passage, des acceptions non encore cultivées jusqu'à eux. Industrie est l'un de ces mots pour lesquels ils ont fait émerger une entente ou une signification nouvelle, et art en est un autre. Ce qui m'intéresse, c'est de noter et de faire noter, justement, le caractère, en l'occurrence, corrélatif du remaniement des deux significations. Ils n'ont pas touché au sens de l'industrie sans toucher au sens du voir et réciproquement. Les conditions énonciatives, les conditions énonciatives des deux mots sont retouchées par eux en même temps et d'ailleurs souvent dans les mêmes textes. Que les auteurs de ces retouches s'appellent tantôt d'Alembert, tantôt Diderot ou tantôt Jaucourt ne change rien à l'orientation de l'ensemble, mais ajoute plutôt à son caractère de pensée non singulièrement signée. Quant au résultat, c'est bien une nouvelle découpe dans et par la langue du champ sémantique à laquelle on parvient finalement. Après l'encyclopédie, le mot « art » est susceptible d'être placé dans un contexte énonciatif qui peut exclure qu'on y entende la valeur d'industrie qu'on y entendait jusqu'alors. Et cette exclusion est, comme je vous l'ai dit, réciproque. Des phrases sont désormais audibles et acceptables, où le vocable « industrie » n'appelle plus grand-chose de l'éminence de l'art. Reste à savoir, dès lors, ce que ce mot appelle. De quel mot le mot « industrie » devient-il le proche ? À cette question, la réponse tient en ceci, que si le rapport de l'art à la beauté n'est pas distendu par les encyclopédistes, celui de l'industrie à la beauté, en revanche, oui, l'est. En même temps, la relation du mot industrie à l'utilité devient quasiment exclusive. Autrement dit, ce que j'appelais il y a quelques secondes la découpe de l'art, son passage en champ propre, le fait qu'il y a un champ pour lequel seul le mot art, que seul le mot art est compétent pour désigner, et plus cette alliance étrange qu'on a oubliée, et qui se trouve pourtant dans les textes du XVIIe siècle, où c'est aussi bien art qu'industrie, Deauville, encore une fois, parlant aussi bien de l'art de Rubens que de l'industrie de Rubens, par exemple. Ce que donc j'appelais plus haut tout à l'heure la découpe de l'art à laquelle ont procédé les encyclopédies, le passage en champ propre de l'art, se sera soutenu d'une réserve de l'utile au registre de l'industrie. Alors qu'est-ce que c'est utile ? Et ça n'est jamais dit frontalement. Ça ne sera jamais dit, je crois, frontalement. Ça n'aura jamais été dit frontalement. Utile a beau être une propriété estimée essentielle des conduites industrieuses, à l'époque on ne dit pas encore industrielle, il faudra encore un temps de pensée pour cela, donc utile a beau être considéré comme une propriété essentielle des conduites industrieuses, il se trouve que ça n'est pas une entrée majeure de l'encyclopédie. C'est-à-dire il n'y a pas de rubrique utile dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, bien que le mot soit fréquent. Au-delà de l'affirmation de texte en texte d'une sorte de tautologie qui serait le champ de l'industrie, ce sont les utilités auxquelles l'humanité accède par industrie. Bien sûr, ce n'est pas une citation que je vous donne là, mais je pense que c'est une sorte de résumé fidèle de ce qu'on peut lire de texte en texte quand le mot utile apparaît dans l'encyclopédie. Au-delà de cette affirmation qui est une sorte de tautologie, il faut, pour trouver une sorte de définition de l'utile dans le dictionnaire encyclopédique, il faut se reporter à la rubrique « avantage ». Où Diderot, bref, très bref pour la circonstance, qui est loin d'être son habitude dans toute l'encyclopédie, mais en l'occurrence il est très bref, donc c'est dans la rubrique « avantage » que Diderot laisse venir à nos yeux une définition relativement implicite, comme vous allez voir, de l'utile. Donc je vous lis cette rubrique, elle est très courte. Avantage, et deux autres mots viennent en tête de cette rubrique, avantage, profit, utilité. Alors, Diderot, avantage, profit, utilité, terme relatif au bien-être que nous tirons des choses extérieures. L'avantage naît de la commodité, le profit du gain et l'utilité du service. Ce livre m'est utile, ses leçons me sont profitables, son commerce m'est avantageux. Fuyez les gens qui cherchent en tout leur avantage, qui ne songent qu'à leur profit et qui ne sont d'aucune utilité aux autres. C'est tout. Voilà. Il faut que je relise peut-être pour la... Avantage, profit, utilité, terme relatif au bien-être que nous tirons des choses extérieures. L'avantage naît de la commodité, le profit du gain et l'utilité du service. Ce livre m'est utile, ses leçons me sont profitables, son commerce m'est avantageux. Fuyez les gens qui ne cherchent en tout que leur avantage, qui ne songent qu'à leur profit et qui ne sont d'aucune utilité pour les autres. Fuyez les gens qui ne sont d'aucune utilité pour les autres. Diderot. Voilà qui est, me semble-t-il, pour le moins sommaire. Et tout de même, moins évident qu'il n'y paraît, comme je vais essayer de vous l'indiquer en espérant ne pas abuser de votre patience. Car, à suivre ce texte, il nous faudrait admettre en même temps deux propositions. La première, que l'utile est ce dont nous tirons service, hein, qui serait la définition que laisse passer ce texte, pas qu'il laisse passer au sens où il serait défaillant dans sa vigilance. C'est qu'en réalité, c'est un très grand écrivain qui procède ici. C'est-à-dire qu'il nous laisse passer dans l'esprit, il nous met dans l'esprit cette idée-là sans vraiment l'expliciter, à savoir que l'utile serait ce dont nous tirons service. Seconde proposition conjointe dans ces quelques petites phrases, que, comme dit le texte, l'utilité aux autres est recommandable. C'est-à-dire qu'il est moralement, je veux dire bon pour les mœurs, il est moralement judicieux, bon pour les mœurs, de profiter les uns des autres. Pareille proposition vous semble-t-elle absolument évidente? Pas à moi, en tout cas. Ayant lu au moins Rousseau, comme je vous l'ai indiqué en commençant, qui ne parlait pas, je le dis au passage, comme on le lui fait dire parfois, d'intérêt général, mais de volonté générale, ayant lu donc ce Rousseau-là, ayant lu aussi le Kant des deuxième et troisième critiques, je doute que la proposition que laisse passer Diderot soit foncièrement évidente et indiscutable. Et de même, je doute, par voie de conséquence, de l'enchaînement auquel Diderot procède lapidairement dans le texte que je vous ai lu, si lapidairement même que pour un peu, on ne verrait pas le coup passer ni le frayage s'opérer, en quoi précisément il s'agit, à mon avis, d'un exemple de grande écriture, de grand écrivain. Car c'est un exemple, en fait, dans le texte que j'ai lu, du point de vue logique, que celui pris par Diderot d'une société de gens qui ne se fuient pas ou qui ne se fuiraient pas parce qu'ils sont ou parce qu'ils seraient en situation d'utilité réciproque. Si donc l'exemple de Rousseau est ou devait être douteux, alors ce qu'il exemplifie l'est ou le serait aussi. Or, ce qui est exemplifié par cette petite phrase, hein, « Fuyez ceux qui ne vous sont d'aucune utilité », ce qui est exemplifié par cette phrase étant la relation supposée intrinsèque de l'utile au service, c'est du coup cette relation même qui peut devenir douteuse aux yeux du lecteur vigilant. Et avec elle, toutes ces autres chaînes de mots que Diderot nous fait passer à l'esprit, à savoir celle d'abord qui, dans l'intitulé même de la rubrique, lie l'avantage, le profit et l'utilité, et puis cette autre proposition, qui est un développement rapide de celle que je viens de résumer, qui fait un ensemble de la commodité, du gain et du service. Alors que l'utile ne gagne pas à devenir commode, qu'il ne faille pas le confondre avec le commode comme le fait Diderot dans le texte que je vous cite, c'est ce que, comme vous le savez au moins par le fait que j'en ai parlé en commençant, c'est ce que sur le champ Rousseau contestait déjà. Que l'utile ne soit pas inévitablement ce qui sert, mais nuance, ce qui peut servir. Est-ce que je m'arrête une seconde dans la lecture de mon texte pour faire entendre cette nuance? C'est pas du tout la même chose de dire l'utile c'est ce qui sert et de dire l'utile c'est ce qui peut servir. Parce que ce qui peut servir ne sert pas inévitablement. Ça peut servir, mais pas inévitablement. Voilà. Et ça ouvre tout un champ de méditation. Parce que qu'est-ce qu'un objet utile qui peut servir dans le temps même où il ne sert pas ? Ce qui peut servir ne sert pas toujours. Il y a donc des moments où ce qui peut servir ne sert pas. Dans ce temps-là, qu'est-ce que c'est ? Quel est le statut de ce qui ne sert pas ? Ben, c'est l'inutile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose, l'utile et l'inutile, si vous définissez utile par ce qui peut servir. Et ça, c'est très perturbant. Voilà. Et très intéressant, il me semble. Donc, j'essaye de réfléchir et de faire réfléchir là-dessus. Pour dire que finalement, nous ne savons pas bien ce que nous entendons à chaque fois que nous disons utile. Et qu'il suffit de ce petit basculement, l'utile est ce qui sert, sous-entendu inévitablement. Et l'utile est ce qui peut servir, ce qui me semble la meilleure définition. Mais là, vous faites basculer la pensée redoutablement, si je peux dire. Voilà. Que l'utile donc soit non pas ce qui sert, mais ce qui peut servir, c'est ce qu'il faudrait ajouter ou préciser dans l'esprit même de la contestation que, sur le moment même, déjà Rousseau faisait à ses camarades, si j'ose dire, encyclopédistes. Alors, si on dit ça, si on commence à miner l'association apparemment spontanée, qui en fait résulte de tout un travail d'écriture, de l'utile au commode, de l'utile au service, hein, si on commence à miner cette relation-là, quelle différence entre l'utile et le beau ? Voilà. Je voudrais qu'on s'entende bien, ou je ne voudrais pas entretenir un malentendu. Je ne suis pas en train de suggérer qu'il pourrait être utile, avantageux ou profitable de faire beau, mais ce n'est pas tout à fait la même proposition, c'est une réciproque seulement apparente. Je voudrais essayer de faire entendre qu'il y a une beauté de l'utile, pour autant que cet utile ou cette utilité n'est pas assignée à la commodité d'un service. Ou parce que, alors là je pense que je suis dans le sujet du colloque, ou parce qu'en toute utilité débarrassée de son supposé lien avec le profit et l'avantage, ou bien en toute utilité n'ayant pas ses valeurs, le profit et l'avantage en perspective, lorsqu'elle vient à être réalisée, en toute utilité, autrement dit débarrassée du lien avec le profit et l'avantage, se trace ou se tracerait une dimension de beauté. On pourra dire politique, cette proposition. Elle l'est sûrement, mais pas immédiatement. Elle touche d'abord, comme j'espère l'avoir fait au moins un peu sentir, et comme le suggérait d'ailleurs Rousseau, pour ce qui le concerne, aux mœurs. Voilà. Avant d'être politique, la proposition que j'essaye de soutenir et qui se trouvait dans Rousseau, tient aux mœurs. C'est-à-dire à l'état des valeurs les plus grandement ou les plus notablement ou les plus notoirement partagées dans le cœur, dans le ventre, dans le sein économique de la société. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi cette façon de parler ? Parce qu'il me semble qu'on peut établir des équivalences. Alors c'est très compliqué si on fait l'histoire des notions, parce que faut remonter au latin et ensuite faut remonter au grec, et le grec et le latin sont des langues qui se recouvrent pas, et nous sommes d'ailleurs des héritiers de ces discordances de langues. Mais enfin, le premier sens du mot oikos dans la vieille langue grecque, pour autant que je sache, je crois que c'est Anna Arendt qui fait remarquer ça quelque part, c'est le ventre, le sein. Tout ce qui caractérise, les grouillements corporels, la vie, pour le dire avec d'autres régimes de vocabulaire. L'oikos, d'où vient évidemment économie. L'écho de l'économie, c'est cet oikos-là pour commencer. Donc, la proposition remanier toute façon de penser l'utile, sans doute, ça finit par être quelque chose qui a un enjeu politique, mais d'abord, ça concerne la façon de pratiquer l'oïkos, c'est-à-dire le cœur, le ventre, le sein de ce qu'il y a de vital dans le social. Alors, dans ces conditions, si j'ai proposé d'intituler ma conférence « Le revers du beau », c'est parce que je souhaitais nous faire revenir, autant que possible, sur toute une façon d'avoir tant d'estime pour l'art, au-delà, pour ainsi dire, du quotidien économique, de l'oïkos social, du cœur, du sein, du ventre de nos vies. Je voulais nous faire revenir autant que possible sur toute une façon de si bien estimer l'art au-delà du quotidien économique que ce quotidien se trouve corrélativement abandonné aux valeurs non artistiques. Et je pense que c'est une question, enfin, en tout cas c'est une question qui m'aura intéressé, ce quotidien abandonné des valeurs artistiques, donc ouvert aux valeurs non artistiques. Extrêmement, voire excessivement entouré de commodités, nous autres aujourd'hui, il me semble que nous touchons de plus en plus manifestement aux limites de cet abandon. On peut dire ça très simplement, nous nous sommes fabriqués depuis le XVIIIe siècle un monde laid. Voilà. Je ne crois pas qu'il s'agisse, dans cette espèce de dénonciation que je vous propose, je ne crois pas qu'il s'agisse pour autant de revenir sur la liaison du beau au désintéressement, mais plutôt, c'est ça l'enjeu, de réattribuer la valeur d'utilité. Alors quel fil tirer pour opérer ce travail, pour réattribuer la valeur d'utilité? Alors d'abord, et pourquoi pas, le fil déjà tendu au XVIIIe par Rousseau. En tout cas, c'est de cette manière que pour ma part, j'en suis venu à étudier, il y a pas mal d'années de ça déjà, philosophiquement, le Bauhaus et au-delà le design. Mais aussi, nous pourrions tirer un autre fil, ou en tout cas, j'en aurais tiré, pour ma part, un autre, que j'ai trouvé depuis, et ça a l'air d'être un petit détail que je vais vous raconter, mais je pense que parfois, on tire sur un petit fil, et c'est toute une pelote qui finit par arriver. Donc, comment réattribuer la valeur d'utilité? Bah, peut-être en retournant lire Rousseau, première proposition, et ces phrases incroyables hein, qui nous proposent de lier l'utilité à une vertu, à une santé, à une vigueur, etc. Bon, qui ne fait pas rien du beau, voilà, mais qui ne pense pas tout ça de la manière dont, finalement, de la façon la plus dominante, nous aurons réfléchi depuis. Deuxième fil, trouvé depuis, alors, qui concerne la traduction, étrange traduction au fil des siècles, d'une petite expression qui se trouve chez Aristote, que je vais vous dire en grec, to subferon, et qu'on a traduit, particulièrement depuis la fin du 19e, par utile. Je ne sais pas si c'est ça que dit Aristote, puisque Aristote utile un mot latin et Aristote parlait grec, et il dit to sum feron, mais on le traduit par utile. Alors to sum feron, sum c'est avec, feron ça veut dire porter, et donc si je devais trouver un mot latin pour traduire littéralement le to sum feron d'Aristote, je dirais convenant, qui vient avec, hein, le convenant. Voilà. Donc. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos esprits pour que le to sum feron, le convenant, soit traduit finalement par utile? Et qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. J'ai trouvé ce fil et je l'ai tiré. L'expression to sum feron est dite par Aristote pour évoquer, c'est le contexte, ça se trouve dans le fameux texte où Aristote dit « l'homme est un animal politique », c'est quatre phrases plus bas. Cette expression to sum feron est dite par Aristote pour évoquer certainement la capacité de l'animal humain, par ailleurs dit, donc deux ou trois phrases plus haut, politique et parlant, elle est dite, cette expression, to sum feron, pour évoquer la capacité de l'animal humain, par ailleurs politique et parlant, à mettre au monde des objets contingents, c'est-à-dire non nécessaires, et d'abord essentiellement possibles. En ce sens, étant donné ce qu'écrit par ailleurs Aristote, cette expression, le to sum feron, en tant qu'elle concerne des objets contingents non nécessaires, d'abord seulement possibles, cette expression, elle concerne essentiellement la technique. Elle traite de la technique. On peut le montrer en reliant les phrases d'Aristote entre elles. Mais, comme vous pouvez l'entendre, elle traite de la technique, cette petite expression qu'on a traduite par utile, en interrogeant ce qui peut, avec la technique, par technique, venir avec, convenir. Ce que le texte dit, je pense, on peut dire explicitement, littéralement, ce que le texte d'Aristote dit, c'est que nous n'avons pas de certitude précise quant à ce convenant. Il dit que l'homme est un animal politique, c'est-à-dire parlant, qui doit se demander ce qu'il en est de l'utile et par ailleurs aussi du juste. Ça veut dire que nous n'avons pas de... Alors, il doit se demander ce qu'il en est de l'utile. Dans le texte grec, c'est ce qu'il en est de ce qui convient, de ce qui vient avec les opérations techniques. Nous n'avons pas de certitude à cet égard. Il faut donc en discuter au cas par cas, c'est-à-dire, dans l'esprit d'Aristote, en faire une matière apolitique. Alors, s'il en est ainsi, je voudrais terminer là-dessus, s'il en est ainsi, alors c'est que la technique, au moins dans l'esprit d'Aristote, n'est pas toute d'un bloc. Voilà. Et si je devais simplifier toute ma complexe lecture, je dirais que c'est peut-être ce qui s'est passé avec l'encyclopédie, c'est de nous avoir glissé dans l'esprit une conception de l'utile et probablement de la technique ou de l'industrie qui en fait tout un bloc. Voilà. Dans la tradition grecque, c'est beaucoup moins évident. Les encyclopédistes ont relu cette tradition et au fond ils l'ont modifiée. Donc Aristote pensait très probablement que la technique n'est pas toute d'un bloc, qu'elle est donc variable dans la qualité de ses offres, de ses propositions. Depuis les Lumières au moins, nous avons oublié cette proposition nichée au cœur du grec d'Aristote. Nous remettre à penser la convenance de la technique, ne pas tenir l'utilité de la technique au seul registre de l'avantage, du profit ou du service, voilà, me semble-t-il, une tâche pour nous et devant nous.
Merci beaucoup. Y a-t-il des questions là, Fabienne Bouzère?
Merci beaucoup pour toute cette lecture du beau et de l'utile en ce qui concerne surtout le XVIIIe siècle. Et pour avoir d'une part mis en avant finalement la différence entre le discours préliminaire de l'encyclopédie sur les arts mécaniques et puis finalement l'article beau d'encyclopédie de Diderot, dont on peut tirer, ainsi que dans d'autres textes de Diderot, une certaine conception justement d'utilité qui peut permettre de penser l'utile comme ce qui peut servir, et donc de revenir à Aristote, ce qui peut venir avec. Et là-dessus, je me disais qu'il y avait un élément, à mon avis, qui est aussi important, c'est aussi une conception du monde derrière. Parce qu'en fait, quand le XVIIIe siècle pense ainsi l'utile, quand Diderot, effectivement, avec parfois un certain nombre de rapidités, pense utile, en même temps, c'est dans le lien, on peut le voir dans le lien, on peut voir un lien à Aristote, mais c'est aussi un lien à Shaftesbury, à sa traduction de Shaftesbury, à la manière dont Shaftesbury lui-même pense l'utile. Et c'est finalement à travers aussi une certaine lecture du monde et l'idée que tout est lié. Et donc à travers aussi une conception panthéiste du monde qui fait que justement tout peut servir et que la beauté, du coup, Elle est conçue dans ce cadre-là. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Ce qui fait, à ce moment-là peut-être, que si on renvoie à la question du monde, et donc la sociabilité, et donc au fait que tout est lié, ça crée peut-être une différence entre ce qu'aujourd'hui, dans l'art, on peut réintroduire comme utile, et ce qui était pensé au XVIIIe siècle à travers la catégorie de l'utile, me semble-t-il.
Alors, je ne sais pas si, je ne sais jamais d'ailleurs si je comprends bien les questions qu'on me pose. Je ne dis pas qu'elles sont mal posées, je parle de moi, hein. Je ne suis jamais sûr. J'ai retenu dans votre remarque ou votre question une expression sur laquelle je vais m'appuyer pour essayer de vous répondre, qui serait « tout peut servir ». Moi, il me semble...
que, alors Diderot peut-être pensait ça, je ne sais pas, que l'encyclopédie en tout cas, en tant que c'est le travail d'un auteur collectif, ne pense pas ça. Justement, il me semble qu'elle dégage sous le nom d'art, une espèce de champ qui n'est pas lié au service. Alors c'est compliqué parce que ça dépend des textes. Puisque justement, il y a un travail, comme j'essayais de le dire, d'écriture de la langue, qui est en train de faire varier les acceptions des mots pour ouvrir un monde qui va venir, au monde qui est en train d'arriver, qui est déjà en partie là, et qui essayent de rendre acceptable finalement. Mais au bout du compte, il me semble que le travail de l'encyclopédie dégage l'idée qu'il y a quelque chose qui ne peut pas servir, qui n'est pas dans le service, et qui est l'art. Donc tout ne peut pas servir. Voilà. Et en revanche, ce qui n'est pas art est ouvert au service, c'est-à-dire au profit, c'est-à-dire à l'avantage, et c'est ces trois mots qui peuvent permettre de désigner, au fond, la compréhension qu'ils ont de l'utile, bien que, encore une fois, ils n'en fassent pas un concept. Donc ça serait peut-être là-dessus, si vous voulez, que je vous répondrai en ayant l'impression que je vous fais une réponse très partielle. Mais je ne pense pas qu'ils pensaient que tout peut servir.
Voilà. Alors, Agnès, on va peut-être essayer de regrouper.
Merci pour cette communication. Je me posais juste une question également concernant le 18e, c'est-à-dire cette question de l'utile chez Diderot. Est-ce qu'il faudrait la mettre en lien au 18e siècle avec la valorisation du talent, du mérite? Alors le talent pas au sens de don, justement, mais le talent au sens de mérite, c'est-à-dire de travail, contre l'oisiveté, c'est-à-dire la classe oisive, l'aristocratie qui est considérée précisément dans une classe qui ne vit pas de son talent, de son mérite et donc du coup de son travail. Je me demandais si dans le contexte politique du XVIIIe siècle, il y avait un lien à faire ici entre la question de l'utile, du talent, du mérite, du travail.
Juste entrer dans la même question. Quel est l'objectif qui guide ta réflexion? Est-ce qu'il s'agit, en remettant en question l'utile, d'identifier ce champ, enfin tu viens de dire, des choses qui pourraient ne pas être utiles? Ou tant qu'à faire, si on réinterroge l'utilité, est-ce qu'il ne faut pas l'interroger du point de vue de la pertinence? Parce que si tu l'ouvres, tout ce qui est, ce qui peut être utile, enfin, on retombe dans quelque chose effectivement, enfin, d'abyssal. La pertinence sociale, la pertinence politique, par rapport à l'utilité, en fait, ce qu'il ne faudrait pas restreindre à ce champ.
J'entends pas les deux questions comme tout à fait les mêmes, mais bon. Sur ce qui concerne le mérite, le travail, le talent, ben, tu m'ouvres un champ de travail ou d'études, c'est-à-dire qu'il faudrait que je piste ces mots particulièrement dans l'encyclopédie. Je pense que le texte auquel je pense immédiatement en t'entendant, c'est le discours préliminaire de d'Alembert, qui me semble être assez clair, dans la mesure où c'est une espèce d'éloge du travail. Du mérite et du talent, je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit son vocabulaire, mais il faudrait vérifier. En tout cas, certainement un éloge du travail. Mais on comprend bien qu'il est aussi dit explicitement, puisque comme j'ai essayé de l'indiquer, ça opère un placement à part de l'art. Ça place l'art à part. Donc les artistes ne travaillent pas. Les artistes sont géniaux. Je ne dis pas, je prends pas ça à mon compte. Hein. Je dis ce que, à mon avis, le texte nous met dans l'esprit ou affirme. Et en revanche, les autres qui sont partis sont en effet travail, et ça assigne le travail. Donc c'est l'association, c'est l'un des plus courts textes que Diderot écrit dans l'encyclopédie, mais il est, pour moi, décisif. Ça assigne le travail au gain, au profit, à l'avantage. Et ça aussi, on peut discuter. On peut très bien, philosophiquement en tout cas, concevoir qu'il y aurait du travail qui ne soit pas profitable, dont on ne tire pas profit, qui ne soit pas un service ou une mise en service, etc. etc. Donc voilà, c'est ça que j'essaye d'ouvrir. Alors peut-être que ça répond à ta question. C'est vrai que si on bascule l'utile de ce qui sert en ajoutant simplement ce qui peut servir, qui est une bonne définition, hein, grammaticale, enfin lexicale de l'utile, et qu'on insiste sur le peut. Ça peut servir, mais ça ne sert pas inévitablement. Oui, en effet, on s'ouvre, comme tu dis, c'est abyssal. Si c'est ça que tu veux me faire dire, je suis absolument d'accord, et c'est très perturbant. Et par exemple, c'est très perturbant, j'ai essayé de le dire en passant, pour les héritiers de Kant, que nous sommes inévitablement chronologiquement. Alors j'essaye de me tirer, de ne pas tomber, disons, dans l'abîme, en disant, je ne cherche pas à revenir sur le mouvement de pensée du XVIIIe siècle et à dire il y aurait une utilité du beau, à soutenir par exemple une théorie de l'engagement, mais inversement, je pense quelque chose à penser qui est, il y a une beauté de l'utile dès lors qu'il n'est pas confondu avec le commode. Et ça libère la possibilité de mettre au monde, je dirais, dans le quotidien du monde, dans l'oikos, des objets qui aient des qualités esthétiques, pour lesquels le jugement de goût redeviendrait pertinent. Je ne sais pas si je te réponds.
Alors, deux dernières questions, et si vous pouvez peut-être...
Merci. Merci beaucoup, Pierre Damien, pour toutes ces ouvertures de pensée. Et j'essaie de m'engouffrer dans l'une des dernières pistes que tu nous as données. C'est au sujet d'un rapport possible entre ce que tu disais sur Aristote et sur ces objets non contingents, convenants, seulement possibles, et que tu désignes comme étant faisant partie de la technique. Et qui viennent dans quelques lignes après la définition de l'homme comme animal politique et parlant. Et dans la poétique, on a un autre critère de définition, justement, et de distinction entre l'homme et l'animal, qui est la mimésis. Bon. Donc, et l'homme mimétique produit des objets qui sont des objets issus de la techné, c'est-à-dire des objets... artistique et notamment les objets tragiques qui sont mentionnés, qui sont décrits dans la poétique. Donc est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine façon, on ne peut pas relier les uns aux autres, et ces deux passages.
Merci beaucoup pour cet exposé, et, parce que j'ai vraiment l'impression que cette recherche originelle de l'utile nous renvoie vraiment à des choses qui se passent aujourd'hui et que je trouve pas inquiétantes, mais en tout cas sur lesquelles on devrait se pencher avec un regard problématique qu'ils ne font pas forcément. Hier, aux Observeurs du Design, qui était un événement de récompense du fleuron de l'industrie française, il y avait il était soulevé les nouvelles applications, les nouveaux champs du design dans l'industrie, et les deux choses qui étaient vraiment soulevées, c'était donc le numérique et les nouvelles méthodes d'études dans le process de création du retour usager. Et il y avait à la fois cette complaisance dans le fait qu'on produisait un objet dans l'assurance qu'il sera bel et bien utile au sens strict et direct de l'objet, qu'on pensait vraiment l'objet dans l'utile fonction que les gens y soulèveraient. Et aussi le fait que dans le numérique, on voyait l'automatisation comme une façon de déresponsabiliser vraiment les usagers. Et donc je parle de tout ça parce que dans un livre de William Flusser qui s'appelle Petite histoire du design, il posait cette question qui disait qu'il y a un retour de bâton des objets. Il dessinait l'image du levier. Du levier pour développer la force humaine, et aussi le fait que si on inversait le geste, ça devenait le bâton qui nous bat. L'image était assez belle. Et voilà, j'ai l'impression que, à travers cette assimilation de l'utile au commode, qui est un mot pour parler de servile finalement, on arrive à ce monde-là, on arrive à ce retour de bâton. Et je voulais savoir du coup comment est-ce que vous pensiez, avec cette ouverture sur la conception de l'utile, comment est-ce que vous perceviez les nouvelles possibilités de l'automatique? Est-ce que vous avez un regard critique sur ce qu'on appelle l'automatisation?
À la dernière question, la réponse est oui. Je ne suis pas forcément opposé à tout ce qui est mécanique. À ce qui est machinal, oui. Alors, c'est des distinctions conceptuelles. Je n'ai pas vraiment le temps de les exposer. Je fais une distinction entre quelque chose qui relève de la mécanique et quelque chose qui relèverait du machinal. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, il peut y avoir des mécanismes, des mécaniques qui sont intéressantes et des machinations qui sont douteuses, ou du machinal qui est douteux. Enfin, globalement, la réponse est oui. Je voudrais juste insister sur le fait que la question est de savoir quand est-ce que l'utilité de quelque chose se manifeste véritablement en tant que tel. Et ce que Rousseau m'aura obligé à penser, dès lors que je refuse pas de le lire, c'est que l'utilité peut-être se révèle jamais autant que lorsque l'objet n'est pas tout à fait commode, parfaitement commode, voilà, que je ne peux pas ne pas me demander quelque chose avec lui. Ça, c'est un point qui me semble extrêmement important. Ou en tout cas, que le rapport que j'ai avec cet objet n'est pas fait de précipitation dans l'usage. Je ne me précipite pas pour l'utiliser. Quand je me précipite pour l'utiliser, quand il ne me retient pas sur ce qu'il est, je rentre avec lui dans une relation de service. Et on sait très bien la dialectique du maître et de l'esclave depuis Hegel, ça se retourne. Ce dont on se sert finit par se servir de nous. Alors si c'est ça que vous évoquez, en effet, j'ai des réserves sur les objets qui vont finir par se servir de nous. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne cherche pas à ce qu'il existe auprès de nous des objets techniques. Au contraire, voilà. Et pour ta question, Catherine, je vais répondre rapidement que chez Aristote, en effet, les objets poétiques sont des objets techniques, complètement, et donc la question de savoir si le totum ferum leur va, je pense que la réponse est oui. Donc, d'ailleurs, vient avec la stricte fabrication de cet objet technique qui est une tragédie, vient avec, sum ferum, le convient, vient avec des effets en termes sentimentaux, la fameuse catharsis, etc., quelque chose qui vient avec, dont Aristote nous laisse évidemment à penser que c'est politiquement judicieux. Donc oui, on les prend, ça convient. Ce sont des objets techniques, des objets convenables. Ça laisse aussi à penser que ce ne sont pas des objets extraordinaires. Littéralement, ce ne sont pas des objets extraordinaires, même si le théâtre à Athènes n'est pas constamment présent, c'est seulement à certains moments. Mais c'est pas, je ne pense pas que ça soit pensé comme extraordinaire, littéralement. C'est bien dans l'ordinaire des mœurs qu'on va trouver ça. Et justement, je pense que ce qui s'est passé avec l'encyclopédie, c'est que ça nous a installé dans l'idée, cette idée que l'art, sa place, s'il en a une, c'est dans l'extraordinaire, abandonnant l'ordinaire à ce que j'ai essayé de décrire rapidement. Les Grecs ne pensaient pas comme ça, me semble-t-il.
Merci. Donc, une petite annonce, simplement. Donc là, nous allons arrêter pour la pause déjeuner. Vont rester ici à déjeuner les intervenants et les modérateurs, puisqu'il n'y a pas de restauration à proprement dite ici. Alors, pour les autres, je suis désolé. Vous pouvez aller donc soit à gauche, tout de suite en sortant, il y a beaucoup de cafés, de bars, on peut déjeuner, soit en remontant vers la gare du Nord. Donc, pause déjeuner. On revient vers 2h, hein, 14h pour le déjeuner. Donc, seuls restent présents les personnes qui sont intervenues et les modérateurs de ce matin et de cet après-midi. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Merci beaucoup.
Très bien, merci. Ce qu'on pourrait peut-être faire, je me disais que cet après-midi, c'est qu'on pourrait peut-être mettre une table en plus pour avoir les deux intervenants, parce que c'est par paire de deux.
Ouais, mais c'est des choses très différentes.
On va pas regrouper les questions. Non, je sais pas, c'était une question.
Bah, c'est des choses très différentes.
D'accord, on fait, d'accord. Ok.
Et puis après, il y a ce même micro.
D'accord, pas de problème.
Non, il y a la.